Monsieur le maire, ma chérie, n'ayez crainte, rassurez-vous, je serai long. On ne le sait pas assez. La science-fiction est la parente pauvre de l'histoire littéraire. Trop d'ouvrages incomplets, voire même mensongers. Trop d'auteurs méprisés, quand ce n'est pas honteusement calomnié. Trop de périodes ou de zones géographiques délibérément oubliées. Trop de textes traînés dans la boue. Trop de médiocrités pinaclisées. Trop d'images mal ou pas du tout légendées. Trop d'omissions ou de ponctuations. Trop de futurs censurés, de passés composés, d'espaces ridiculisés, de moralistes sans fondement, de zeugmas chroniques. Le groupe Rempart, qui en est le dernier, contre l'obscurantisme du mundanisme triomphant, du réalisme socialiste magique et du mainstream américanisant, ne pouvait se satisfaire de cette situation. Et il s'en est saisi à bras le corps défendant. Il a mobilisé les énergies de ses membres pour tracer les prolégomènes des grandes lignes des bases d'une tentative de réécriture des fondements de l'évolution historico-temporelle de cette littérature, des origines jusqu'à nos jours et même au-delà. Ce qui va vous être présenté ici par mes confrères et moi-même n'est qu'une esquisse des linéaments des premiers travaux qui ont été menés par nous au fil de nos recherches patientes, minutieuses, répétitives, individuelles, érudites, sémantiques, obscures, objectives et obstinées. Que le caractère apparemment disparate de ces contributions ne vous rebute pas, la forêt ne cachera pas l'arbre, la charrue sera correctement mise avant les bœufs, la cruche n'ira pas à l'eau, la pierre n'amassera pas mousse. Mesdames, messieurs, monseigneur, monsieur le maire, ma chérie, merci de l'attention que vous voudrez bien porter à ces brèves interventions.
Merci à Jean-Jacques Régnier. Maintenant, je passe la parole à Pierre Stolz qui va nous parler de Pixelos de Cnemid.
Je vais vous parler de Pixelos de Cnemid à l'origine de la science-fiction. Plus loin. On a l'habitude de voir dans l'auteur Lucien de Samosate le premier auteur de science-fiction à cause de son roman « L'histoire véritable ». Décrivant notamment une expédition dans la Nulune. Histoire écrite en grec vers 180. Mais Lucien ne fut qu'un vil plagiaire. Il pilla sans vergogne une œuvre antérieure, celle de Pixelos de Cnemid. Œuvre dont il ne reste hélas plus rien. Ou quasiment. Parlons de Pixelos. Il naquit sur l'île de Cnemid vers 380 avant Jésus-Christ, fit de solides études à Athènes et devint un célèbre mathématicien, astronome et philosophe, célèbre en son temps. Il fut autant et plus qu'Aristote, le précepteur d'Alexandre le Grand. Avant Aristarque de Samos, qui vécut un siècle plus tard, il démontra que la Terre était ronde, tournée sur elle-même et autour du Soleil, de même que les autres planètes connues à l'époque. Il eut l'intuition que les autres sur cette planète vivaient d'autres humanités, proches de la nôtre, et des êtres fabuleux. Sur ce sujet, il écrivit un ouvrage conjecturel, ouvrage intitulé « Prolégomène à toute explicitation future de la vie métacéleste ». Il était persuadé que sur la planète Arès, Mars pour nous, ne vivaient que des hommes, des mâles, de farouches guerriers, et sur Aphrodite, Vénus, que des femmes, des Amazones. Pour que ces guerriers et ces Amazones puissent se reproduire, il extrapola la légende des habitantes de Lesbos et de leur rencontre avec les Argonautes et autres marins de passage. Il imagina ainsi que, à des dates régulières, des vaisseaux partaient de Vénus et de Mars, se rencontraient dans l'éther interplanétaire, s'ensuivaient des relations charnelles passionnées. Les Vénusiennes abandonnaient aux Martiens les enfants mâles nés de précédentes unions, et chacun s'en retournait chez soi. Il faut croire que la description trop précise de certaines étreintes, ainsi que des commentaires abscons sur le mouvement des planètes, scandalisèrent ou rebutèrent les lecteurs de l'époque. L'œuvre de Pixelos aurait été totalement oubliée sans l'intervention d'un éminent directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui vécut 2 siècles plus tard. J'ai nommé Eupater le grammairien, dit aussi Eupater l'oxymore, car il adorait disséquer les figures de style. Dans ses divers traités sur la littérature, il cite de courts extraits de Pixellos de Cnémide, pour s'en moquer bien sûr, ironisant sur la pauvreté stylistique de leur auteur et sur la naïveté de son imagination. Mais un mal engendre souvent un bien. Grâce à Eupater le grammairien, dont les seuls manuscrits se trouvent à la Bibliothèque Vaticane, nous pouvons révéler aujourd'hui l'existence de Pixellos de Cnémide, honteusement pillé et par l'astronome Aristarque de Samos et par le romancier Lucien de Samosate. Que la mémoire de Pixellos de Cnémide, dit aussi Pixellos le protège-tibia, soit ici réhabilitée.
Merci Pierre Stolz. Maintenant, je me passe la parole à moi-même, qui vais vous parler de Léonard de Vinci, le grand-père de la SF mondiale. Alors, Léonard de Vinci, j'ai des problèmes de vision. 1452-1519. Alors, vous savez que Robert Heinlein, dans Une porte sur l'été, raconte incidemment les mésaventures d'un dénommé Léonard Vincent, qui aurait permuté. S'en fiche, c'est bon. Qui aurait permuté sans espoir de retour avec Léonard de Vinci. Et l'histoire d'Heinlein s'arrête là pour des raisons éditoriales. Mais en fait, cela s'est passé autrement. Il a réellement inventé une machine à voyager dans le temps et c'est le véritable Léonard de Vinci qui en a profité. Il faut dire que Léonard Vincent était très beau et que les deux compères ont très vite trouvé un arrangement réciproque. On sait que Léonard de Vinci a rempli de nombreux carnets de notes sur tous les sujets, notamment scientifiques et techniques, et bien sûr dans le langage et les limites de son époque. De par sa capacité à effectuer des voyages temporels avec sa machine, il a pu voir au cours des siècles ultérieurs les concrétisations de ses nombreuses cogitations. Mais face au pouvoir de l'Église de son époque, pouvoir en place, il ne pouvait pas en faire un état. Il a donc choisi la fiction et écrit des textes de ce qu'on appelle, nous, SF, maintenant, dans notre langage moderne. Et il a fait publier ses textes sous prénom et sous pseudonyme dans son futur. Et ça, aucun de ses héritiers n'en a parlé, parce que, bon, c'était secret. C'est pourquoi de nombreux chercheurs cherchent encore actuellement ces textes ainsi dispersés. Nous allons voir maintenant sa manière de procéder sur quelques exemples, en n'oubliant pas donc qu'il procédait... qu'il maîtrisait le voyage dans le temps et qu'il a longtemps été responsable du prieuré de Sion d'autre part. Ça, c'est important. Ça. Alors, premièrement, Cyrano de Bergerac. En 1650, un dénommé Valentin Andrea, probablement Vinci lui-même, dirigeait le prieuré de Sion. Il l'a fait de 1637 à 1654. En tant que tel, il avait récupéré les textes ultra-secrets de SF pour faire bref, légué par Léonard de Vinci à son compagnon et élève Francesco Melzi, 1491-1570, avec notamment tous les textes sur la peinture et ce qui sera appelé plus tard le Codex Leicester. Melzi avait donné ces textes au connétable de Bourbon, successeur de Léonard de Vinci à la tête du prieuré, de 1519 à 1527. Incidemment, on notera que Léonard de Vinci s'est toujours assuré que ces textes restaient dans les armoires du prieuré. Nous savons, grâce à son ami Henri Lebray, 1618-1710, que Savinien Cyrano de Bergerac, l'auteur, qui a vécu de 1619, donc né un an après Lebray, jusqu'en 1655, a eu de longues conversations avec Andrea. Et pour confirmer la supposition ci-dessus, c'est probablement même avec Léonard de Vinci qu'il a rencontré, vu qu'ils avaient en plus des goûts communs tous les deux. Voir à ce propos les archives de la Bibliothèque Vaticane. C'est ainsi qu'on trouve dans les deux romans SF, pour faire bref, de Cyrano de Bergerac, Histoire comique des États et Empires de la Lune et Histoire comique des Empires et États du Soleil, des textes quasi complets de Léonard de Vinci, qui ceci est confirmé par Lebray, qui a présenté, censuré et publié ses histoires en 1657, deux ans après la mort de Cyrano de Bergerac. Lire à ce propos l'article de Claude Métra, paru dans Planète numéro 5, intitulé « L'autre monde ». Léonard de Vinci s'est pas arrêté là. avec Cyrano de Bergerac. Au XIXe siècle, Nodier, Charles Nodier, qui était aussi chef du prieuré de Sion, comme par hasard, de les dates de 1801 à 1844. Théophile Gautier, dans un texte, Les Gros Textes, Les Grotesques, de 1844. Le bibliophile Jacob, donc, qui est Paul Lacroix, ou Rémy de Gourmont, contribue à faire connaître le Cyrano de Bergerac que nous connaissons nous maintenant et que reprendra Edmond Rostand, 1868-1918, dans la pièce Cyrano de Bergerac. Nous allons voir comment. Claude Lebussy, célèbre compositeur de l'après-midi d'Anaphone, dirigeait le prieuré de Sion, en fait, de 1885 à 1918. Et on sait que lui et Edmond Rostand fréquentaient les mêmes cercles mondains. C'est ainsi que dans la fameuse scène 2, s'il y en a qui veulent la voir, je l'ai là, la fameuse scène 2 de l'acte 3 de la pièce de Rostand, dans laquelle Cyrano donne à De Guiche sept manières d'aller dans la Lune, il ne fait pas de doute qu'on retrouve la patte, bien sûr, de Léonard de Vinci, dans le langage du début du 19e siècle, c'est évident, du 20e siècle. On trouve en effet bien dissimulé les éléments de base du voyage spatiaux, apesanteur, appel du vide, salpêtre, magnétisme et, bien, et autres attractions universelles. On voit ainsi comment Léonard de Vinci a créé un archétype universel, tel Don Quichotte ou comme Don Quichotte, Jean Valjean ou San Antonio, et a fait de la SF une littérature essentielle dans notre monde. Ah, mais il n'y a pas que... Je vous ai donné l'exemple de Cyrano de Bergerac, il y en a d'autres. On pourrait aussi citer d'autres auteurs ou d'autres domaines de SF abordés par Léonard de Vinci, et maintenant ce ne sont plus les sources qui manquent. Il y a juste dans une saga islandaise de Harald Johan Johansson, vous en trouverez des traces. Par exemple, nous avons que Léonard de Vinci a employé le pseudonyme de Jules Verne, pseudonyme collectif utilisé notamment par Victor Hugo, célèbre auteur de SF franco-américaine, et responsable aussi du prieuré de Sion, en son temps de 1845 à 1885, et qu'on peut lui attribuer sans hésitation les deux livres sur le voyage dans la Lune, 20 milieux sous les mers, Hector Savadac et le trésor de Rackham le Rouge. Un autre exemple qui montre que Léonard de Vinci a l'œil à tout, un autre exemple, avec ses voyages temporels, c'était facile. Au cours de ses voyages temporels, il a suivi attentivement la carrière de Hugo Gernsback, dont le prénom avait été choisi en l'honneur du célèbre auteur de science-fiction franco-américaine, Victor Hugo. Il y a même des informations, trop parcellaires malheureusement pour le moment, disant que Léonard de Vinci aurait rencontré Maman Gernsback en 1883, voire la cotation, etc., etc., de la Bibliothèque du Congrès. On sait tout de même avec précision, avec certitude, que la revue de Gernsback, Modern Electrics, dans laquelle il avait publié Ralph 124C41, n'aurait pas pu exister sans le soutien financier de Léonard de Vinci, obtenu via Claude Lebussy et le prieuré de Sion. Et bon, il a donc suivi Gernsback, mais il a aussi suivi la carrière de John Pond Newman, ce célèbre auteur néo-zélandais, dont Nébuleuse nous avait déjà parlé avant. Par respect pour la vérité, il faut aussi signaler deux irréductibles indépendants qui n'ont pas été influencés par Léonard de Vinci au XXe siècle cette fois-ci. Il n'a jamais réussi à atteindre, par exemple, l'auteur Serge Belle-Fille solitaire et sa SF grumeleuse. Les voyages spatiaux grumeleux présentés par Serge Belle-Fille solitaire. Il voit pas, hein. Vous comprendrez aisément, ce n'est pas grand-chose à voir avec Cyrano de Bergerac, avec ceux de Cyrano de Bergerac. Le deuxième auteur cité, c'est bien sûr Alain Langevilliers, auteur français SF bien connu, dont on vous parlera plus tard. Pour terminer les incises, permettez-moi de signaler quelques prédécesseurs, parce que d'avant Léonard de Vinci, dont, après Pixelos de Cnémide, voici deux adeptes de ce qu'on appelle maintenant le space opéra et les soucoupes volantes. D'une part, il y a un dénommé Paul de Tars et sa soucoupe volante sur le chemin de Damas. Et d'autre part, Chrétien de Troyes, dont la célèbre table ronde, vous le savez, bien sûr, était une soucoupe volante. Bon. Conclusion avec Dan Brown. En conclusion, vous avez vu que j'ai parlé beaucoup du prieuré de Sion, donc page 532 dans le bouquin, le livre de poche que j'ai, on cite qu'il y a toute la chronologie des chefs du prieuré de Sion. Actuellement, les chercheurs sont partagées sur les sources, en dehors de l'officiel, bien sûr, qui s'appelle l'énigme sacrée, dans lequel il a tout pompé. Il a très probablement rencontré Léonard de Vinci à Hollywood en 1992, ou encore Jacques Saunière, mais ça c'est moins sûr, on est moins évident que celui qui a été conservateur assassiné dans le roman. Il a eu aussi accès au Codex Leicester, donc actuellement en possession de Bill Gates, qui est le seul original de Léonard de Vinci, en possession du privé actuellement. Il l'a payé 30 millions de dollars il y a quelques années. On se doute bien que c'est pas la relation de Jésus et Marie-Madeleine qui est apparemment le nœud du roman, que ce n'est pas la crainte de sa révélation, même si cela restait au centre du secret du prieuré de Sion jusqu'à l'arrivée de Vinci à la tête du prieuré, que c'est ça, que c'est la raison essentielle du Da Vinci Code, c'est pas ça le problème. L'arrivée de Léonard de Vinci à la tête du prieuré, par contre, a tout chamboulé avec sa machine temporelle. Vous n'avez qu'à imaginer un voyage temporel en l'an 1, le compte-rendu public de ce voyage temporel et la réaction de l'Église et des pouvoirs économiques de l'époque. C'est facile à imaginer, ça. Donc le Da Vinci Code s'est finalement écrit sous l'influence de Léonard de Vinci pour faire connaître au monde l'existence de la machine temporelle. Cherchez bien, quand vous le lirez, vous trouverez. Ce dernier exemple illustre ainsi la manière de faire de Léonard de Vinci et donc son rôle fondateur de la SF mondiale, à l'exception notable du Costa Rica, vous comprendrez plus tard, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Je cède la parole maintenant à Raymond Ménézi qui va nous parler de Victor Hugo, célèbre écrivain de science-fiction franco-américaine.